Bon, si paysan, on l'entend encore souvent, quoi. Paysan, c'est un peu assimilé à plouc ou à arriéré, qui était un petit peu... presque une insulte à un moment donné, quoi. Et donc, c'était reprendre ce mot, c'est aussi l'occasion de revendiquer toute la qualité de notre métier, quoi. De casser un peu les préjugés.
Et quand on choisit de dire paysan plutôt qu'agriculteur, c'est pour s'identifier dans une mouvance plus proche de la terre, plus...
C'est aussi celui qui fait le paysage, mine de rien. Donc il y a aussi une fonction aussi d'aménagement du territoire, aussi. Et puis une notion de pays, peut-être plus rattaché au terroir, territoire, hein, choses comme ça. Et puis on dit agriculteur, mais on dit aussi exploitant agricole. Et donc statut, mais on peut aussi dire des fois les agriculteurs, on dit exploiteur agricole, donc il y a la notion d'exploiter, on peut exploiter la terre. Alors que paysan, c'est déjà plus doux, plus poétique, on peut dire.
Un projet de vie paysan, un documentaire de Benoît Bory et Charlotte Rouault.
Je suis charentaise d'origine et voilà. Et je suis agricultrice depuis le mois de janvier.
Cécile.
Et je produis donc des petits fruits en bio. Donc les petits fruits, c'est fraises, framboises, myrtilles, groseilles, cassis, kiwis. Et là, je suis en réflexion pour planter d'autres fruitiers. Plus en arboriculture du coup, un peu de pommes, un peu de poires, un peu de cerises. Et puis j'ai un autre atelier sur mon exploitation, c'est un atelier jardin pédagogique. Donc je fais de l'accueil d'enfants, d'établissements spécialisés, d'écoles. Et voilà.
Moi je suis Mickaël, je suis le compagnon de Cécile. Et puis je suis aussi frère de Tudual. Donc on est installé à peu près sur la même ferme, c'est des entreprises séparées. Mais... Voilà, donc je suis étudiant les maraîchers, je suis son frère et donc copain de Cécile qui fait des fruits. Et puis, du coup, en l'occurrence, enfant des agriculteurs qui ont été sur cette ferme, qui sont encore sur cette ferme.
Donc, Tudol, c'est moi qui fais les légumes. Voilà.
On appelle ça atypique, un projet atypique. Surtout le jardin pédagogique rajoute un petit peu de marginalité, mais moi je concevais pas m'installer agricultrice sans être bio. Alors labellisé ou non, hein. Le label c'est une autre question, mais moi je mettre des saloperies dans le sol. Je veux faire de la bonne nourriture, je veux être claire avec les gens à qui je vends aussi, parler de mon produit, bien le connaître. Voilà, et puis c'est le choix du local aussi, pour moi c'est l'avenir. C'est pareil, par exemple, justement pour avoir le statut agricole, on en parlait tout à l'heure, pour avoir le statut agricole, il faut un minimum de surface. Moi je comptais pas m'agrandir en petits fruits, c'est pas possible. Déjà je peux pas embaucher des gens pour récolter c'est énorme, 3 hectares 6 de petits fruits. Faut embaucher, faut avoir tout de suite une grosse structure en fait. Donc et produire autant 3 hectares 6 de petits fruits pour les vendre où pour les vendre dans d'autres régions, tout ça, ça a aucun intérêt. Il y a d'autres producteurs de petits fruits dans les autres régions, donc moi, l'intérêt, c'est que j'ai la chance aussi, comme je dis que j'étais chanceuse, c'est que Je suis la seule en petits fruits bio au niveau local dans le coin, là. Donc du coup, j'avais ma place. Et les gens recherchent beaucoup en fruits bio, parce qu'il y a beaucoup de légumes bio, mais en fruits, c'est beaucoup plus rare. Et voilà, c'était un... Enfin, moi, mon objectif, c'est de nourrir les gens que je connais autour de moi. Enfin, voilà, qui a un esprit... Je sais pas comment dire...
Alors qu'on ne demande pas grand-chose, enfin, en maraîchage par exemple, que ce soit les petits fruits ou même beaucoup de projets, tout ce qui est vente directe, en fait on valorise beaucoup notre production. On a besoin de très peu de surface, hein, il suffit de 2, 3, 4 hectares pour vivre en fait. Et à côté de ça, bon, tu vois des mecs qui ont des fermes de 100 hectares, voire plus, rien que sur Clégarec, ici on a des fermes gigantesques quoi. Et ça fait vivre une famille, et si ça la fait vivre, c'est déjà pas mal, parce que c'est pas le cas de tous quoi. Et bon, tout ça pour faire souvent de la bidoche et du lait, bon, c'est souvent ça la grosse production ici quoi. Alors que par hectare, tu nourris beaucoup plus de gens avec des productions végétales, vente directe, etc. Quoi. C'est beaucoup plus intensif, beaucoup plus... ça crée beaucoup plus de liens, beaucoup plus de... Par exemple, nous, en faisant la vente directe, on crée des liens sociaux, par exemple, c'est pas négligeable, c'est à notre petite échelle, quoi, mais c'est quand même important, je trouve. Et puis, bon, on a... les consommateurs demandent aussi à se rapprocher des paysans un petit peu, donc on est capable de leur parler un petit peu de notre métier, de... des problèmes agricoles en général quoi.
Avec ceci, madame.
Moi j'adore faire les marchés et de parler de mon produit quoi. C'est génial, tu sais que c'est toi qui l'as planté, tu t'en es occupé et tout, et il y a des gens qui s'émerveillent devant. Enfin bon, alors moi j'ai un produit assez facile, c'est des fraises, des framboises. Donc les gens pétillent là, ils sentent que... mais voilà, et du coup, de parler des variétés, voilà, selon les goûts des gens, du coup, il y a vraiment un échange. Il y a des gens qui juste prennent une barquette et s'en vont, mais il y a beaucoup de gens quand même qui mettent une barquette de fraises. Et moi, je leur dis, vous voyez, là, j'ai 5-6 variétés de fraises. Ah oui, alors là, tout de suite, les gens se posent et disent « Ah oui, dites-moi, je leur demande, qu'est-ce que vous préférez, l'acidité, le très sucré, le juteux, la grosse fraise, la petite fraise, enfin voilà. »
On a aussi des notions de gastronomie, quoi, que... Bon, pareil pour les légumes, hein, y a des légumes, des fois, que tu dois le faire, que les gens ne connaissent pas. Voilà, des légumes qu'on n'a pas coutume de voir, encore une fois, dans les supermarchés, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, et qu'il y a plein de choses à faire avec, donc on peut échanger des recettes, on rentre vraiment dans de la gastronomie, quoi. Que l'agriculteur qui est en filière longue, qui vend son légume et qui voit dans des grandes filières, et puis qui voit jamais ses clients en direct, et il n'a pas ce retour-là, quoi. Il n'a pas ce plaisir de voir le client qui revient la semaine d'après en lui disant « Ah, votre légume était génial, quoi ».
J'avais goûté les... Mais c'était moins cher, je me souviens. Quand j'étais venue, 4,50 le pot, là.
J'ai pas changé de prix pour la confiture.
Oui. Comment ?
J'ai pas changé de prix pour la confiture.
Ah non, c'est même toujours comme ça ?
Oui.
Oui.
Donc il y a framboise et
fraise. Ah, j'avais goûté la framboise. Ah, quelle délice.
La fraise, la framboise... moi, quand je vois les yeux des gens... sur mon étal l'été, ils ont les yeux qui brillent comme des enfants quoi, devant des bonbons, c'est pareil quoi. C'est beau de voir ça, t'es content de ton produit. En plus, il était plutôt bon pour une première année. J'ai vraiment des belles variétés, c'était une année à fruits. J'ai adoré vendre mes produits, quoi. C'était un vrai plaisir. Quoi. Un vrai plaisir. Puis tu vois les gens revenir. Aux fraises, elles sont succulentes. J'ai même des mamies qui m'ont dit j'avais pas mangé des fraises comme ça depuis mon enfance. Enfin, c'est trop beau, c'est chouette. Du coup, ça te motive. Hein, ça... Du coup, quand tu passes tes heures à récolter, parce que que là, c'est des produits ultra frais, donc c'est vraiment la veille pour le lendemain, voire le matin pour le marché de juste d'après. Donc ça peut te faire râler des matins où t'es pas de bonne humeur, t'es fatigué et tout, mais quand t'es au marché après que tu vends tes produits, tu dis « non, j'ai pas fait ça pour rien, c'est chouette ».
Faire des patates au beurre.
Ah, l'alliance va être...
Ouais, c'est bien.
Bon, elle a une chair un petit peu sucrée.
Ouais.
Elle est jaune, bien jaune.
Je sais pas, de
Oh, tu peux mettre ça.
Comme n'importe.
Ouais.
Ouais, les gens me demandent des... Calibré des fois.
Ouais, ça va.
Encore des tomates cerises.
Oui.
Bon, en général, quand on achète hors local ou en vente directe, c'est quand même moins cher. Maintenant, des fois, ça peut être un peu plus cher parce qu'on n'est pas forcément compétitif face à des gros producteurs hyper mécanisés, hyper standardisés, hyper spécialisés. Donc, c'est difficile d'être concurrentiel. Puis, quand ça vient de l'autre bout de la planète, en bio, en l'occurrence, il n'y a pas les mêmes coûts de main-d'œuvre, donc pas les mêmes coûts au final sur le produit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, quand on parle d'économie locale, et c'est vrai aussi hors de l'agriculture, c'est que si on met un petit peu plus cher dans le produit, en même temps c'est de l'argent qui reste localement et donc qui en profite aussi aux gens qui achètent en fait quoi. Parce que quelqu'un qui travaille avec un producteur du coin, c'est aussi des impôts qui vont revenir, c'est de l'argent, voilà, c'est quelqu'un qui va aussi réinvestir son argent localement et voilà, aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on retourne beaucoup à une économie, qu'on relocalise l'économie en général quoi, du moins autant qu'on peut.
C'est ma première année, donc c'était quand même une organisation particulière parce que j'ai dû planter mes fruitiers, donc préparer mon sol, tout ça. Parce que moi, c'est une production, c'est pas comme le maraîchage où on sème toutes les saisons et même on sème toute l'année et puis on récolte toute l'année. Moi, c'est des plants qui vont aller de 10 ans à 60 ans, mais qui, oui. Normalement, ça peut vivre jusqu'à 60 ans, les pommiers, tout ça. Donc moi, une fois que c'est planté. Sauf mes fraises, tous les 3 ans. Tous les ans, je dois en replanter parce que ça produit pendant.
Tu fais vraiment partie de la nature, quoi. Tu fais vraiment partie d'un tout. Tu comprends vraiment.
Et après, dans l'organisation de l'année, donc c'est vrai que
la nature, c'est bien ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vivre, et que on est un peu comme des animaux des fois, quoi. On vit au rythme des saisons, quoi.
Mais après,
l'été, les jours sont plus longs, on travaille plus. L'hiver, faut mettre les jours sont plus courts, mais en même temps, faut mettre le corps un peu en hibernation. On suit ce rythme-là, quoi.
Mi-novembre, donc. Mais le gros, c'est mai à septembre, c'est récolte, vente, à peine le temps de désherber, et du coup je me suis fait un petit peu déborder par les mauvaises herbes, mais bon, au final on y arrive quand même, mais c'est surtout ça pendant cette période de l'année, c'est vente, récolte, quoi. Et c'était tous les jours, j'avais des ventes quasiment tous les jours, sauf il y avait que le jeudi où je vendais pas. Donc c'est un rythme soutenu. J'ai un marché le lundi, j'ai de la MAP le mardi, le mercredi je livre le magasin.
On a beau avoir des travaux, des métiers très prenants. À côté on prend le temps de bien manger aussi quoi. Ça c'est moi j'ai coutume de dire que un peu notre loisir c'est de bien manger aussi. On prend le temps de faire une bonne pause à midi. Si on est fatigué en milieu de matinée parce que on a envie de faire une pause, on se l'accorde. Beaucoup de choses qu'on mange dans nos repas quotidiens, ça vient de la ferme. Donc non seulement on a envie de bien nourrir les autres, mais on a envie de bien se nourrir aussi. Et c'est un vrai plaisir de bien manger. et c'est important. Et ça aussi, ça fait partie des bons côtés du métier en plus, quoi. Et ça fait partie aussi du salaire un petit peu aussi, quoi, qui n'est pas compté. Donc il y a des petits salaires, mais en même temps, tu t'auto-suffis en grande partie pour l'alimentation et c'est pareil.
Enfin, en janvier, je vais avoir mes... Enfin, décembre, janvier, je vais replanter des fruitiers. Je vais tailler mes fruitiers. Donc, tailler les fraises, tailler les framboises, voilà. J'aimerais profiter de ce temps-là aussi pour continuer à aménager le jardin. Et puis, c'est l'entretien du jardin aussi au printemps. Hein. C'est comme un gros potager quand même. Donc, là, il y aura un peu de boulot. Et puis, des mets, ça va repartir, quoi. Voilà. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis bien dans mon métier, je me sens bien. Autant avant, j'ai jamais eu un gros revenu, donc je sais pas trop ce que ça veut dire avoir un gros revenu. Mais je me permettais un peu plus de choses et tout. Mais là, je retourne aux besoins essentiels, en fait. Je mange mes produits, je mange les produits des copains qui sont autour. J'ai une qualité de vie quand même. Je pourrais faire des jaloux, quoi, je pense. C'est vrai que niveau temps libre, là, j'en ai moins que quelqu'un qui est employé, quoi. Qui a des horaires et tout ça. Moi, j'ai pas trop d'horaires. Alors des fois c'est fatigant, on a un peu la flemme d'y aller. Le dimanche, on a plutôt envie de se reposer, mais il y a des choses à faire. Donc c'est vrai que ça, c'est un investissement personnel. Mais je suis quelqu'un de sociable, je suis quelqu'un qui aime sortir, qui aime faire la fête, qui aime rencontrer des gens, qui aime la culture et tout ça. Donc je me sens pas enfermée dans mon champ à faire que ça non plus, parce que le choix de ma vente aussi, le fait d'être sur les marchés, il y a les copains sur les marchés aussi. Et puis j'ai aussi un avantage, c'est si je dois aller chez un médecin dans la journée, si j'ai des rendez-vous à la banque ou des rendez-vous, enfin des rendez-vous de tous les jours, je peux prendre une heure, me barrer. Ou si j'ai des courses à faire, je peux y aller à n'importe quelle heure, quoi. Enfin, je suis assez libre à ce niveau-là aussi, même si des fois on culpabilise de perdre du temps quand on a plein de choses à faire. Mais moi, je changerai pas ma vie là pour le moment. Peut-être que dans 20 ans, je dirai autre chose. Je sais pas, mais pour le moment.
Je suis quasiment tout le temps dehors. J'aime bien quand je suis sûr que tout est fait dehors, entendre la pluie qui tombe et puis la pluie, c'est bien.
Et de fermer les yeux et d'écouter tous les sons, et du coup tu peux.
La pluie là, elle est agréable à entendre, quoi.
Arriver à décrire les activités qui se passent autour de toi, et t'as les chiens qui aboient, t'entends les cornadilles des vaches, t'as le chasseur au loin. Là, on entend le tracteur qui passe, du voisin. Donc la serre, elle est coupée en deux. Il y a la partie vraiment accueil où il y a des tables, des chaises. Il y a même un petit salon paille pour les enfants du samedi, avec des supports pédagogiques, un atelier avec des petits outils. Des bouquins, des graines en tout genre, parce que en fait le jardin pédagogique, c'est pas que du jardinage, c'est aussi de l'animation nature. Donc on peut aller très bien écouter le paysage au bord de l'étang ou faire des créations artistiques comme on a pu faire la semaine dernière, là, des petits mobiles avec des graines dans tout genre qu'on va récolter dans la nature, quoi. Le but, c'est faire des arts plastiques, mais sans acheter, en achetant le moins possible, parce qu'on achète quand même un petit peu de fil de fer, un peu de choses comme ça, mais un peu d'outils, mais voilà. principe, c'est comment voilà, s'amuser avec ce qu'on a autour de nous et créer encore. Ben, je me rends compte que, je sais pas, j'y prêtais pas trop attention avant de m'installer en fait. Et puis en s'installant, bah, du coup, je vois plein de nénettes autour de moi et qui, pour le coup, elles sont seules, et chapeau quoi. En fait, y a beaucoup de femmes qui se sont installées ces dernières années et c'était plus pour compléter l'activité de leur mari, qui était déjà exploitant. Et du coup, les femmes, c'était soit de la transformation de produits, soit de l'accueil. Gîte ou accueil pédagogique, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui s'installent en individuel, en agricole, et pas forcément... Ouais, je sens que ça aussi, ça se fait de plus en plus, quoi. Les femmes sentent que... C'est pas que dans le milieu agricole, mais là, on voit bien qu'elles prennent leur indépendance aussi et qu'elles ont envie d'aller dedans, mais c'est pas facile, hein, parce que, bon... On a beau dire, physiquement, c'est dur, quoi. Puis quand t'as des enfants, tout ça, elles ont du courage. Oui, je pense que je suis courageuse quand même, mais j'ai un soutien, tu vois. Je me suis pas installée toute seule, quoi, pas vraiment. Je suis toute seule, mais j'ai la belle famille derrière. Je peux avoir un soutien à n'importe quel moment, quoi, si je sens que... Bah physiquement, par exemple, mes poteaux de kiwis, il fallait aller les couper, aller les planter, tout ça. Enfin, toute seule, j'aurais jamais pu. À la masse, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment donné, t'as des limites, quoi. Et bah là, avec les copains, la famille, voilà, on s'entraide et je me sens pas seule. Et oui, je pense que les copines, elles sont pas seules non plus, mais... Je sais pas, ouais. Enfin, voilà. Si j'avais été toute seule, je ne serais pas installée aujourd'hui. Parce que j'aurais pas eu le foncier, ça aurait se bagarré tout seul, encore en Bretagne, dans d'autres régions aussi. Hein, mais il y a un fort réseau, il y a un fort réseau de militants qui peuvent te soutenir. Mais même, il faut avoir du cœur à l'ouvrage, faut être courageux. Voilà, mes beaux-parents m'ont aidé à financer mes premières dépenses parce que j'avais pas encore les aides, donc du coup ça s'est passé comme ça. Donc il y avait un soutien moral aussi, parce que il y a des moments où t'es super motivé, puis il y a d'autres moments où tu dis est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est vraiment faisable, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, enfin voilà, t'as plein de questionnements. C'est important d'être entourée, hein, je pense. Ouais. Et pour une femme aussi, parce que l'installation, c'est pas que les papiers non plus. C'est, moi, voilà, j'avais un champ brut au départ. Ben, il a fallu que je trouve une serre, que j'achète des plants, que je les plante, que je prépare la terre, tout ça. Enfin, voilà, c'est très physique, mine de rien. Et merci la famille, quoi. Merci la belle famille. Merci la famille en soutien moral aussi. Voilà, je pense que tout seul, je sais pas, un gars c'est peut-être plus facile, j'en sais rien en fait, je sais pas, mais moi je pense que je serais pas installée si j'avais été toute seule.
En bas, en fait, jusqu'à... Il y a un étang, en fait, c'est ce qui limite le terrain. Et je suis vraiment au cœur du village, quoi. Donc, ce lieu me plaisait bien. Il y a une belle vue. Il y a la vue sur la forêt de Kénécan. Donc, alors, les Bretons appellent ça un village. Pour moi, c'est pas un village. C'est plutôt un lieu dit, mais ici, on dit village, quoi. Donc, là, je suis au cœur du village. Kélénès. Donc, ça veut dire le lieu où il y a du houx.
J'ai du chou de pontoise qui résiste très bien l'hiver et qui est très productif, c'est magnifique. Et un autre aussi pareil très productif, c'est le chou de Lorient qui est breton du coup, qui a été abandonné dans les années 60-70 je crois, C'était un chou qui était cultivé en grande surface vers l'Orient pour l'exportation en Allemagne. Et en Allemagne, ils en faisaient de la choucroute surtout, quoi. Et à un moment donné, il y a eu une grosse concurrence des pays de l'Est, il me semble. Ce qui fait que tous les paysans qui faisaient du chou de l'Orient l'ont abandonné. Et la variété est en train de revenir aujourd'hui parce qu'elle est très intéressante en bio, quoi. Elle résiste très bien aux maladies, elle est très productive, résiste vraiment bien au gel, etc. Donc ça, c'est ce que je fais, par exemple.
T'as le soutien, t'as le savoir-faire. Oui, ça facilite, c'est sûr. Parce que la bio, moi je dis pas que les conventionnels ils n'ont pas de savoir-faire. Hein. Non, ils savent plein de choses. Mais en bio, tu dois bien connaître ton sol. Tu dois être beaucoup plus organisé au niveau du désherbage. Parce que du coup, le désherbage, il est mécanique ou manuel. Et du coup, il faut s'y prendre à temps parce que tu es vite débordé en fait à la bio. Hein. Tu mets pas de désherbant et puis on n'en parle plus. Là, c'est toutes les semaines, il faut désherber un peu et tout ça. Donc ça demande beaucoup d'organisation, un plan de culture complexe et tout ça. Et c'est vrai que les anciens, ils ont ce savoir-faire et qui passent volontiers. Mais ils sont aussi exigeants, quoi. Ils sont aussi exigeants parce que ils le sont comme ils sont exigeants avec eux-mêmes en fait. Et des fois j'ai l'impression qu'il y a aussi. Enfin, il y a le bon côté et le côté incompréhension aussi. Peut-être qu'on n'y met pas la même énergie qu'eux, ils ont mis. Alors pourquoi, je sais pas. Je pense pas qu'on soit plus feignants. Hein. Mais peut-être qu'on a envie d'avoir un peu plus de temps libre. Parce que si on s'organise collectivement, c'est pour avoir un peu plus de temps pour soi ou dans le champ, mais un peu plus de temps pour soi aussi, parce que ouais, bah on s'habitue à ça aussi, hein, je sais pas. Les anciens, eux, c'est pas leurs objectifs spécialement, quoi. Alors maintenant, un petit peu, là. Mais parce qu'ils sont fatigués de leur vie de paysans, mais... Des fois, il y a des petites incompréhensions, quoi. On n'a pas droit à l'erreur, des fois. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile avec eux. Ils sont exigeants, quoi. Ils veulent qu'on fasse aussi bien qu'eux, mais des fois, ils oublient qu'ils ont été dans l'expérimentation, eux aussi, quand ils ont fait des erreurs, mais ça, ils oublient. Maintenant, eux, ils ont un outil qui tourne et tout va bien, et du coup, nous, on est au début et... On fait des erreurs, hein, j'en ai fait, et je pense que c'est pas fini. On en fera d'autres, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien ce lien avec les anciens, quand même. Tu peux te mettre un coup de pied au cul aussi, et ça fait du bien. Non, le son, c'est surtout les insectes qui sont autour. Par exemple, au mois d'août, on a été envahi de guêpes et de frelons. Alors au début, on a un peu peur. Et puis, tu te rends compte que les guêpes et les frelons se gavent de fruits et sont complètement sous avec le fort taux de sucre qu'ils ingurgitent, quoi. Et du coup, ils sont tout pâteaux et du coup, le vol des abeilles, enfin, c'est rigolo, quoi. Des guêpes, pardon, et des frelons, ils sont tout pâteaux et ça nous fait rigoler, quoi. En Bretagne, il fait beau au moins une fois par jour. C'est ce que les Bretons disent. Et c'est vrai, en plus. C'est vrai. En fait, quand je suis dans mon champ en train de récolter ou en train de travailler, il y a le son de ma bêche, il y a le son de ma sueur, et il y a le son des oiseaux qui m'entourent, des chiens qui aboient au loin. En fait, je prêtais pas attention à ces sons-là avant, parce que je travaillais en intérieur souvent. Quand j'étais à l'extérieur, je faisais pas forcément attention.
Et là, le fait de se retrouver seul face à ces fraises et tout ça, bah, du coup, tu fais beaucoup plus attention autour de toi. Et ouais, j'ai plein d'anecdotes. J'ai les buses, dès que t'en entends une, oh, tu lèves le nez, tu la vois, elle est en train de se bagarrer avec une corneille. Puis du coup, bah, c'est ta pose, quoi. Tu t'observes ça. C'est vachement attentif. Des sons d'oiseaux que j'avais jamais entendus. Alors mon copain, il m'aide pas mal là-dessus parce qu'il connaît mieux les oiseaux que moi. Ouais, j'ai un pivert, j'avais un pivert tout l'été qui était dans des peupliers pas loin de mon. Enfin, au bout de mon champ en fait. Quand il tape contre le tronc là, c'est chouette. J'ai un martin pêcheur aussi. Enfin, même au-delà du son, j'ai un rouge-gorge. J'ai l'impression que c'est toujours le même qui m'accompagne. C'est marrant, il se pose pas loin. En fait, je crois que tous les jours, je me suis émerveillée d'une chose. Alors, je pourrais pas tout... Je m'en rappelle pas forcément, mais je me rappelle que tous les jours, avec mon copain, des fois, paf, on lève la tête. Et ah, c'est la surprise. Il y a toujours des bergeronnettes qui font leur nid, des choses qu'on voit pas. Parce qu'en fait, on travaille sans bruit. Le tracteur, on l'a utilisé peut-être 6 fois dans l'année, quoi. Le reste, c'est que du manuel. Et voilà, du coup, les autres sons prennent... Du coup, t'observes, tu fais plus attention, quoi. Puis il n'y a rien de silencieux, en fait. Il y a toujours des choses.
Ce qui fait peur quand même à de plus en plus de jeunes en projet d'installation, c'est quand même les investissements à la base, quand même, ça c'est clair. Surtout qu'on est dans des fermes qui deviennent de plus en plus grosses. Hein. Pourtant, il y a un des métiers qui demande, enfin qui laisse le plus de place, enfin où il y a le plus de débouchés, quoi. Je veux dire, il y a plein de places, quoi. Dans les 10 ans à venir, il va y avoir plein de fermes à reprendre. Donc il y a de la place hein, pour celui qui veut s'installer. Maintenant, on a des fermes quand même qui s'agrandissent de plus en plus. Et donc des investissements de plus en plus lourds. Et c'est vrai que quand on dit à quelqu'un, bah voilà, pour t'installer, pour reprendre cette ferme-là, il va falloir que tu mettes sur la table 300 000, 400 000 euros, c'est vrai que ça fait peur. C'est quand même un engagement de toute une vie, en fait, quoi. Et on n'a pas intérêt à se planter, quoi. Que c'est vrai que nous, sur des plus petits projets, les investissements sont beaucoup moins lourds, quoi. Donc ça fait moins peur. Maintenant, après une grosse ferme, ça c'est aussi faire rentrer plus d'argent. Sauf que c'est pas toujours vrai non plus. Donc c'est vrai que on y réfléchit à deux fois quand même, à vraiment être sûr de soi pour se lancer, quoi.
Et les banques appuient un peu plus ce genre. Oui, on a vu hein, des aides, des emprunts à 300 000 sans problème, alors qu'ils vont rechigner sur... comme moi, mon budget, c'était 20 000 euros, quoi. Ben, tu sens que ça tique un peu, parce que du coup, des petits budgets, du coup, une petite structure, du coup, un peu bancal, quoi. Et puis pas de référence en chiffres. Surtout sur tous les petits projets alternatifs comme ça, ils n'ont pas de référence, c'est pour ça qu'ils ont les petits maraîchers, tout ça, ont du mal à trouver une banque en fait.
comment dire, que les banques ont toujours joué le jeu du système, en fait. Elles ont toujours été dans les mains, dans la main, avec le système agricole conventionnel, avec les agricultures industrielles, enfin, tout ça marche ensemble. Et le but aussi des banques, c'est aussi que... il faut faire tourner le système, il faut que les grosses fermes, elles achètent du matériel, elles achètent des engrais, elles achètent des pesticides. Tout ça, ça fait marcher une grosse économie, quoi. Et que nous, on vise vraiment l'autonomie. Et l'autonomie, c'est pas ce qui est le plus rentable pour la croissance. Et voilà, et on est indépendant. Et ça, ils ont pas beaucoup intérêt à nous soutenir. Donc, on n'a pas peur de le dire. On le constate tous les jours quand on regarde un peu autour de nous. Voilà, on sait bien de quel côté ils se situent souvent, quoi. Donc, tous ces nouveaux projets là qui essayent d'aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, je crois qu'ils aiment pas trop les voir, en fait, quoi, et s'ils peuvent.
Oui, par rapport au conventionnel, on est moins dépendant de la fluctuation des prix, quoi. Parce qu'on est dans le local. Moi, encore une fois, comme je suis la seule en petits fruits bio, je fixe un peu mes prix, si tu veux. Mais j'essaye d'être le plus juste possible. En fait, le prix de mes fruits, c'est le prix de mon temps de travail, en fait. Et je pense être juste sur mes prix. Alors que des gens qui sont dépendants de la fluctuation des prix, un jour le blé il sera à temps, l'année d'après il sera, enfin je dis l'année d'après, la semaine d'après ça peut doubler. Et du coup ils sont vachement dépendants et moi j'ai pas ce souci là du tout, quoi. Je fais pas. Moi, je fais mon prix juste pour moi, ce qui me fait vivre et ce qui est juste par rapport à mon temps de travail, parce que la fraise a un coût, hein, c'est 12 euros le kilo, moi je le vends. Ça te fait 3 euros la barquette de 250 grammes, mais pour moi, le temps passé dessus, il y a le temps du marché que je compte aussi, mine de rien. Forcément, quand je vends mes fraises à la Bouillocop, elles sont un petit peu moins chères parce que je fais une livraison et j'en parle plus, quoi. Donc il y a juste mon temps de récolte. Par contre, si je fais sur le marché, je compte mon temps de travail aussi. Parce que c'est pas rien de faire le marché, c'est fatigant, c'est... Il faut le préparer la veille, il faut t'installer. On est moins dépendant de la bourse, quoi. Ça, c'est quand même une chance, hein, parce que...
Qui peut dire aujourd'hui le prix du poulet, le prix du porc sur 10 ans, ne serait-ce que sur un an, et que nous, une fois qu'on a notre clientèle qui est à peu près stabilisée, voilà, on sait vers où on va, on a une maîtrise sur nos prix, on est des entreprises plus souples aussi, du fait d'avoir moins d'investissements, on est plus réactif.
Le projet, on a envie qu'il évolue tout le temps, pas forcément en taille, mais qu'il évolue en idée. C'est pour ça qu'on va planter d'autres fruitiers, parce qu'il y a vraiment une carence en fruits bio au niveau local, quoi. Du coup, on aimerait bien répondre à cette demande-là. Et puis, en fait, l'idée, c'est de créer le poste de Mickaël, quoi. Parce que... Voilà, il me voit faire et il s'investit dans le projet et du coup il a envie d'y participer, quoi. Et l'idée c'est de créer son poste. Alors soit on s'associe, soit je le salarie. On n'a aucune idée du statut encore, on est en train d'y réfléchir, mais dans l'idéal, c'est de bosser ensemble. On s'entend bien, on se complète. Voilà, c'est un projet de vie aussi, hein, ce métier-là et ce projet-là. On a envie de s'investir à fond tous les deux dedans, quoi. Et voilà. Et puis c'est ce jardin aussi, parce que là je parle de la production, mais ce jardin, mon idéal n'est pas... Enfin, il est toujours en tête et j'espère que ce sera un lieu un jour associatif, pris en main par d'autres gens aussi, pas que porté par moi. Bien sûr, c'est mon envie, c'est mon idée de départ, mais à chaque fois que je parle de ce projet-là, tout le monde me dit c'est super et tout. Donc j'espère qu'un jour, ce lieu, il sera investi, qu'il sera militant, il sera culturel. Moi, je rêve de voir des artistes dans le jardin, je rêve de voir des gens qui se posent, voilà, qu'il y ait des choses, qu'il y ait des manifestations qui regroupent les gens, qu'il y ait du social, qu'il y ait du social, du culturel, du militantisme, voilà. Petit jardin idéal, quoi.
Vous venez d'écouter Un projet de vie paysan, un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory. Une production Faïdos Sonore, décembre 2011.